Oui, c'est pas une question, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'à partir d'un cas théorique différent, on arrive aussi à des conclusions communes. Je parle là du travail qui se passe entre la prescription et le réel. Alors, moi, j'ai utilisé la sociologie des sciences pour comprendre ce qui se passait. Et la théorie de la traduction est vraiment très puissante pour comprendre ça. Et notamment tout le processus de renormalisation. Et ce qui est important, à mon avis, de voir, c'est que ce processus ne se passe pas qu'entre les enseignants. Mais il est le fruit de multiples interactions avec beaucoup d'acteurs, entre beaucoup d'acteurs, notamment avec l'inspection ou d'autres, des formateurs aussi. Et en gros, chacun joue sa partition à son niveau. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que ce travail de traduction, il est presque sans fin. Il n'est pas. Or, les enseignants ont souvent une attitude un peu déceptive en disant. Parce qu'ils espéreraient que, bon, ben ça y est, une bonne fois pour toutes, on sait où on en est, où on va. Et la dynamique qu'on peut observer, en fait, c'est pas celle-ci. Et le dernier point qui me semble intéressant aussi, c'est que dans le travail de traduction, ce que montre bien Latour, c'est qu'il y a toujours déplacement. Il y a reformulation, reproblématisation, mais un déplacement qui a pour objectif d'enrôler les autres par le biais d'un processus d'intéressement. Et je trouve que c'est très net quand, par exemple, sur les PPCP, comment les enseignants sont intéressés à cette prescription, comment certains inspecteurs parviennent à les intéresser en utilisant des arguments qu'ils pensent percutants. Par exemple, grâce au PPCP, les élèves seront plus motivés, donc il y aura moins le bazar dans la classe, quoi, en gros. Ce sera, comme ce que tu as très bien dit, un élément de cadrage de la classe. Et donc ce travail d'argumentaire et d'intéressement me semble un objet possible à étudier, parce qu'on cherche aussi des traces pour cette étude.
Oui, j'ai noté que vous disiez que les prescriptions sont consubstantielles à l'activité, et j'ai aussi relevé, et il me semble empiriquement le constater régulièrement, que même si les acteurs ne connaissent pas la prescription dans son essence. Alors là, je me pose la question de l'intercalaire social qui agit pour qu'il y ait cette adaptation, cette auto-adaptation.
Tu peux préciser, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question.
Il me semble qu'il a été dit que les enseignants, même s'ils ne connaissent pas la prescription de manière très détaillée, l'appliquent, font l'effort de l'appliquer. Ouais. Donc là, si je fais le lien avec le discours qui était un petit peu précédent dans la démonstration, il y a une notion d'intercalaire social, il y a un collectif qui agit, il y a quelque chose là. Est-ce que tu peux préciser cette...
Alors, oui, Anne-Marie Chartier disait à l'oral, effectivement, ce que j'appelais là le travail du collectif, c'est effectivement dans une... ça fonctionne, c'est pas une culture écrite, quoi. Ça fonctionne dans une culture de l'oral. Il y a des travaux là-dessus de Damien Cru qui montrent comment justement ça circule, ou comment ça ne circule plus. Parce que quand je disais effectivement que la prescription était un organisateur du travail de l'enseignant, c'est parce que l'enseignant réfère ce qu'il fait à ce qu'on lui demande de faire, tout en tenant compte de ce que ça lui demande à lui de faire ce qu'on lui demande de faire. Et là, ça soulève la question de comment gérer justement l'investissement subjectif, le coût psychologique, le coût en termes de charge de travail, pour faire ce qu'on me demande. Et c'est là que ça convoque le collectif. Parce que les ressources, on ne peut pas les inventer tout seul. On a besoin d'élaborer justement... notamment de combler les trous de la prescription. Je disais qu'on avait affaire à des tâches discrétionnaires où on a des objectifs contraignants mais très peu de ressources pour le faire. Une des fonctions des collectifs, lorsque les collectifs existent et jouent ce rôle-là, c'est de combler les trous de la prescription pour mettre à la disposition de chacun des façons de faire dont il va pouvoir s'emparer pour faire ce qui est à faire. Donc voilà comment... Et ces ressources, elles sont bien entendu élaborées en fonction de ce qu'on demande de faire. Autrement dit, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas une sorte de clandestinité du travail, de résistance du travail. Les enseignants s'efforcent bien de faire ce qu'on demande de faire, sauf que s'ils font autre chose que ce qu'on leur demande de faire, c'est pas parce qu'ils tournent le dos à ce qu'on leur demande de faire, c'est qu'ils sont obligés d'opérer des compromis entre ce qu'on demande d'un côté et ce que ça leur demande à eux de faire ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire la question du coût. Là, on est complètement dans une approche de type ergonomique, c'est-à-dire les ergonomes. Ce qui caractérise l'ergonomie, c'est cette idée que dans l'activité de travail, et pas seulement le travail des enseignants, on est en permanence en train de gérer des compromis entre souci d'efficacité au sens strict d'un côté et souci de santé au sens large de l'autre. C'est-à-dire santé au sens où je l'ai défini, pas seulement absence de maladie, mais occasion de faire du travail, possibilité de faire du travail, une occasion de développement personnel et professionnel. Et là, on gère en permanence des compromis qui font que, et on le voit très bien chez les débutants, comment ce double souci d'efficacité de santé est un organisateur. Les tensions, je dirais, entre souci d'efficacité d'un côté et souci de santé de l'autre, se traduisent par ce que j'ai appelé une efficacité dynamique, une efficacité malgré tout, qui pour moi est un organisateur, cette fois non plus du fonctionnement, mais du développement de la compétence et de l'activité enseignante.
Donc, peut-être pour donner des exemples très simples, c'est que ça passe par beaucoup ces anecdotes de salle des maîtres, où on se scandalise de quelque chose, où on se réjouit de quelque chose. Quand tu te rends compte de ce qui vient de se passer, ce parent d'élève, c'est complètement incroyable, et le débutant entend, à travers une anecdote, s'expliciter, se dire de manière implicite, plus exactement, ou te rends compte, tel collègue, encore en congé, non, ça va, hein, je veux dire, on sait bien que, ou au contraire, des sentiments de solidarité. Je veux dire que tout ce qui circule, tout ce que Michel de Certeau étudiait dans la perruque, c'est-à-dire quels sont les usages et mésusages qu'on a le droit de faire en dehors des normes prescrites de travail, c'est ça qui va définir des cultures professionnelles. Alors moi, je me suis beaucoup appuyée, j'ai eu beaucoup de mal, parce que quand je suis arrivée dans les écoles normales, j'imaginais que les savoirs étaient à disposition dans des placards, des bibliothèques, et que je ne savais rien, j'étais nulle comme une vache, il suffisait que je travaille bien, et puis je les aurais. Et en fait, beaucoup me disaient, mais non, parce que la culture des instituteurs, ils n'écrivent pas, ce n'est pas des intellos, etc. Et c'était vu en mauvaise part. Il fallait rendre lisible, scriptible, etc. Or, je me rends compte que c'était ça qui fait l'obstacle, c'est pour ça que je suis inquiète par rapport au mythe de l'universitarisation, c'est que les cultures professionnelles sont de manière essentielle, orale pratique. Et même si la recherche doit enquêter sur cette orale pratique, les discours écrits, savants, scientifiques qu'elles produisent à ce propos ne les exhaustivent pas et ne les font pas fonctionner. Donc du coup, dans ce que moi je cherche du côté des courts-circuits, ce que j'appelle des circuits courts de la formation, je pense qu'il faut essayer de s'appuyer beaucoup sur de l'oral pratique à l'oral pratique, à travers tous ces systèmes de transmission d'anecdotes, etc., même si les éclairages de la recherche sont très sécurisants, parce qu'on peut toujours se tromper sur ce qui est important ou ce qui est vraiment de l'anecdotique. Mais ce que je redoute de toutes les recherches, en général, c'est d'entériner le mythe de rendre lisible, démocratique, accessible facilement dans des bibliothèques et donc à disposition de tout un chacun individuellement, ce qui permettrait directement l'efficacité du travail. Parce que c'est pas comme ça, me semble-t-il, que ça se construit. Est-ce que tu...
Pour faire très vite, je suis complètement d'accord sur ce point de vue-là. Je pense que c'est d'ailleurs un des risques très, très présents à travers le recours de plus en plus fréquent aux bonnes pratiques. Je suis très critique et très réservé à l'égard de cette inflation des bonnes pratiques. En gros, on a une situation où on a les bonnes pratiques de côté et la compassion de l'autre, comme dit Claude, c'est-à-dire l'écoute individuelle de la souffrance, quoi. Et entre les deux, ce qui passe à la trappe, c'est le métier, justement dans ce qu'il a de vivant. Et c'est vrai que, alors je ne l'ai pas précisé, dans les travaux de recherche qu'on conduit, par rapport à d'autres types de recherches qui ont été évoquées là dans les journées, passent toujours par des interventions dans lesquelles il y a à la fois un souci de recherche, mais il y a surtout un souci, ce qui organise, c'est pas les hypothèses du chercheur, c'est quelque chose qui fait problème dans le travail, à la demande d'une équipe, d'un collectif, etc., et sur lesquels on va essayer de, par rapport à la difficulté, par rapport à laquelle, on va essayer de permettre aux professionnels à l'origine de la demande de reprendre la main sur la difficulté. Et ça se fait par les canaux de l'oral pratique, en fait. Dans l'usage qu'on fait, nous, de l'autoconfrontation, on essaie de revivifier, si je prends les termes qu'utilise Anne-Marie, de redynamiser, justement, les canaux de circulation de l'oral pratique qui, quelquefois, dans certaines situations de travail, sont bouchés. Donc, de déboucher les canaux de circulation de la culture orale pratique.
Oui, ça peut être de la plomberie.
C'est aussi les réserves, je finirai là-dessus, que j'ai à l'égard de la notion de praticien réflexif, qui est devenue complètement prescriptive. Et cette idée de réflexivité, d'abord, elle oublie le rôle des émotions, il me semble, dans l'activité. Et surtout, elle risque de conduire justement à cette rationalisation à outrance, à l'extrême, qui tournerait le dos à ce qui est le canal privilégié et essentiel de circulation du métier, qui, encore une fois, passe par une culture orale pratique.
Pas d'autres questions urgentes? Alors, on va être obligé de s'arrêter, même si on sent bien que Frédéric pourrait continuer encore un certain temps. Là, il est parfaitement échauffé et parfaitement disponible. Merci à toi. Avant de dire deux mots de conclusion pour accompagner votre départ, est-ce que je peux vous demander de déposer le questionnaire d'évaluation sur la table à l'entrée, là où vous avez margé, comme ça on les récupérera et on pourra les retourner donc à ceux qui ont organisé la formation. Au début, dans le propos liminaire, je disais que j'étais un responsable de service heureux. Bon, je dois dire que après ces deux journées, ma position n'a pas changé et que je me suis régalé, comme on dirait un peu familièrement, moi, pendant ces deux jours. Alors, ça ne préjuge pas de votre satisfaction ou de l'intérêt ou des frustrations, effectivement, que vous avez pu éprouver au cours de ces deux journées. Bon, disons, je suis plutôt confiant de ce côté-là. Moi, ça m'a bien plu. Je ne suis pas en situation de remercier tous les intervenants, enfin ceux que j'ai sous la main, donc je les remercie chaleureusement, bien sûr. D'autant plus qu'ils appartiennent à la catégorie que j'avais citée, toujours dans mon propos liminaire, des transfuges du symposium de Rouen. Bon, non, en gros, ils se sont... Rennes, excusez-moi. Ils ont fait l'aller-retour et ils sont revenus nous donner un coup de main. Bon, c'était sympa. Alors, pourquoi est-ce que c'est ce type de formation-là, donc autour de l'analyse du travail et d'activité, je me suis posé la question, pourquoi finalement est-ce qu'on fait ça régulièrement et pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Bon, je crois que ça réfère tout simplement au travail que se donne l'INRP, au double titre de, d'une part, de l'articulation de la recherche à la formation, puisque c'est quand même une des missions que l'Institut se donne, et puis ce qu'on pourrait appeler d'une expression très très générique, l'accompagnement du changement. Vous voyez que là, on ne prend pas beaucoup de risques, il y a forcément des choses qui changent, et peut-être les chercheurs de l'INRP peuvent aider aux accouchements plus ou moins douloureux. On a d'ailleurs vu avec le débat qui a suivi l'intervention de Richard Witorski ce matin que c'était pas simple à traiter pour un chercheur, le changement, parce que si c'est dans une position de faire le point à l'instant T sur quelque chose, il se trouvait dans le cas un an plus tard ou deux ans plus tard, surtout si on a un moment de changement fort, de se voir opposer que sa description a plus beaucoup d'intérêt puisqu'elle correspond plus à ce qui est en train de se jouer. Donc ça c'est délicat, c'est une des questions, une seule des questions que pose le changement. Il y en a beaucoup d'autres. Donc on avait monté deux journées. On peut toujours reconstruire de la rationalité rétrospectivement, pour dire comme Frédéric. Donc la première, c'était plutôt comprendre le travail. Et la seconde, c'était plutôt apprendre le métier. Vous voyez bien que c'était un peu plus mêlé que ça. D'abord parce qu'il y avait des interlocuteurs qui étaient, des intervenants qui étaient dans les deux journées et qui n'ont pas changé radicalement de discours de l'une à l'autre. Et puis que, par exemple, Françoise, on ne pouvait la voir que cet après-midi, alors qu'elle aurait dû être quand même plutôt, par le thème de son intervention, du côté de comprendre le travail. Bon, on aurait fait là un beau couplage organisateur, désorganisateur. Bon, on fait comme on peut aussi, Donc là, on va dire qu'il y avait une symétrie, l'organisation au début, la désorganisation à la fin, plus une belle synthèse de Frédéric. Ce que, me semble, tous les intervenants là avaient en commun, outre une forme d'acquiescement quand même à l'idée que, à travailler avec les enseignants ou avec les conseillers pédagogiques ou avec ce qu'on pourrait appeler les agents intermédiaires, les chercheurs sont bien dans leur rôle, c'est-à-dire que une conception de la recherche, quand même, je crois que ça a été partagée par tous ceux qui sont venus, qui consiste à dire que à travailler sur le travail, ça peut difficilement se faire en l'absence des travailleurs et sans une interaction avec eux. Bon, pour faire très très vite, là-dessus, je pense qu'ils étaient à peu près d'accord. Et alors, l'articulation à la formation, je crois qu'elle est vue très globalement assez simple, puisque même si Frédéric a dit la prescription, on ne peut pas comme ça la jeter et s'en débarrasser, tout de même, tous ceux qui sont intervenus sont à peu près d'accord pour dire qu'il faut entrer par l'action, que c'est ça. Et ensuite, bien sûr, il s'agit de faire la balance, de voir ce qui interfère, etc. Mais ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, entrer par l'action, ben, on voit bien comment ça se rapproche de quelque chose qui peut devenir de la formation. Le rôle de la recherche. Bon, je crois qu'il n'y a pas un rôle possible, hein. Il y a celui que j'énonçais tout à l'heure, là, qui est de faire le point, de nous donner à voir ce qui se passe, ce qui n'est déjà pas mal, avec des risques de décalage, donc, comme dit précédemment. Il s'agit donc de renvoyer à ce moment-là une image de la réalité. On a bien vu aussi que c'était un moyen de fournir des outils, éventuellement. On a vu aussi qu'il y avait des préoccupations de méthode, que tout ça n'était pas forcément singulier, qu'il pouvait y avoir plusieurs choses en même temps, et que l'objectif au fond commun pour tous, c'était d'arriver à travailler ensemble, donc chercheurs et formateurs ou enseignants. Une des questions, parce que je veux en garder qu'une, il y en a beaucoup qui ont été posées, c'était celle que posait déjà Pierre Pastret, mais qui est réapparue, et qui est une question, on le sait bien, classique de la formation, initiale en tout cas. C'était cette question, la réponse on la connaît pas vraiment, hein, mais elle peut se travailler. Comment accompagner les débutants dans la construction progressive d'une organisation complexe de l'activité? Et le recours à des artefacts, j'aime bien l'expression d'artefact, c'est-à-dire à des simulateurs de vol, simulateurs complets, simulateurs partiels, etc., nous est à peu près interdit. Donc, il faut faire autrement. Et ça, c'est une question importante. Avec aussi des choses qui ont été dites sur les décalages temporels et... Pour avoir été en IMFM, moi-même, je m'est bien arrivé de les vivre. C'est-à-dire que dans le moment où vous imposez d'une façon ou d'une autre tel thème de formation à des stagiaires, éventuellement, ils ne sont pas du tout disposés à recevoir cette formation-là. Quitte 6 mois plus tard à se dire que quand même, c'était bien qu'ils aient eu quelques éléments. Pourquoi ? Parce que... Ils n'étaient pas, par exemple, en situation de professeur principal. Et mais ils vont l'être, hein. Ils vont l'être 3 mois après. Mais au moment où 3 mois avant vous leur posez la question, ben ça les rase et puis ils voient pas l'intérêt. Donc c'est très très compliqué. Je pense que l'analyse de l'activité devrait nous aider à avancer, devrait nous aider à avancer en formation. Donc nous on est bien décidé. Côté INRP, à continuer à travailler sur cette question, à essayer d'élargir le cercle, comme nous avons fait à l'occasion de ces 2 journées. Je vous remercie, Frédéric Le Gignalet, pour la qualité de votre participation aux débats qui ont eu lieu. Et je vous souhaite donc bon retour chez vous et bon week-end.